À voix nue, Caroline Brouet.
Serge Chalandon, journaliste, écrivain, flâneur salarié.
Quatrième épisode, faites entrer l'accusé, les témoins et les victimes. Bonjour Serge Chalandon.
Bonjour.
Hier, dans le troisième épisode, vous nous avez parlé de la guerre au Liban, de choses que vous aviez vues, vécues, notamment les massacres de Sabra et Shatila, et de la façon dont le reporter se doit de rapporter en témoin neutre ce qu'il a vu. Je voudrais, pour ce quatrième temps, parler du temps de la justice, parce que vous avez arpenté de nombreux prétoires, notamment pour le quotidien Libération. Le procès, le temps de la justice, c'est un exercice de journaliste que vous appréciez, c'est comme une continuation de ce que vous avez vu avant, un autre exercice que celui de la guerre, par exemple ?
Alors, non seulement c'est... Oui, c'est une suite, c'est une continuation. Mais en plus, j'ai une... C'est étrange, je pense que ça va faire bondir quelques-uns. Mais j'ai le fait divers et j'ai le procès en haute estime. C'est-à-dire, je pense que le fait divers, le procès d'assises, le procès correctionnel, les chiens écrasés, comme les appellent certains... Et ben en fait, c'est le plus casse-gueule pour le journaliste. C'est-à-dire, c'est le lieu où tous les mots comptent. Je vous mets au défi, vous prenez un journal de droite, un journal de gauche, et je vous fais lire les pages économiques en cachant le nom du journal, ben vous ne saurez pas très bien si le journal est de droite ou de gauche. Dans le fait divers, on voit tout de suite si c'est un journal de droite ou de gauche dans le choix des mots. Et donc moi, je suis extrêmement attaché au fait divers, je suis attaché au procès, parce que le choix des mots compte infiniment. Et c'est un exercice qui est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que c'est une chose, il y a trop de mots toujours. Moi, je trouve que dans le monde dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on vit, lorsqu'on écoute les gens, il y a trop de mots. Voilà, il y a des mots en trop tout le temps, partout. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans le fait divers, c'est d'aller, encore une fois, c'est ce qui me bouleverse aussi, et ce que je m'oblige à faire dans le reportage, aller à l'os des mots, mais là, c'est encore pire, c'est encore plus violemment impérieux. Et ce qui m'intéresse, par exemple, moi j'ai donné des cours à l'École supérieure de journalisme à Lille et aussi au CFPJ à Paris, de journalisme, et j'apprenais aux élèves, justement, sur le fait divers, à enlever les mots. Par exemple, je les ai fait travailler sur un sujet qui était difficile, sur un faux procès de viol. Aucun journaliste en devenir n'a écrit le mot viol tout seul. Viol épouvantable, viol atroce, viol... Et je leur dis, mais est-ce qu'il y a des viols sympathiques ? Le mot viol porte en lui l'épouvante. Donc, il y a des mots qui, vous les appauvrissez en cherchant à les conforter dans ce qu'ils sont. C'est-à-dire que le mot viol suffit. Le mot massacre, je lis toujours ça dans la presse, un attentat abominable, mais il n'y a pas d'attentat formidable, il n'y a pas d'attentat sympathique. Et le fait divers, je trouve que c'est le lieu où il y a trop de mots. Et lorsqu'on rentre dans un procès d'assises, moi, j'ai connu des princes, véritablement des princes de journalistes comme Laurent Grelzamer, qui nous a quittés il y a peu de temps, des princes journalistes, c'est-à-dire des gens dont on lit les articles avec sans respirer, tellement c'est fort, tellement c'est beau, tellement ça nous raconte la société dans laquelle on vit. Un procès d'assises nous raconte le monde dans lequel on vit, et c'est formidable le procès d'assises, parce que en fait vous n'avez pas à bouger de votre siège, vous êtes dans les bancs de la presse habituellement, et tout vient à vous. C'est-à-dire que les faits viennent à vous, l'accusation vient à vous, les témoins viennent à vous. C'était pas le reportage où il faut chercher tout ça. Vous êtes dans une pièce, dans un lieu unique, où tout se déroule devant vos yeux, tout se redéroule, et je trouve ça passionnant. Mais c'est important pour moi de me dire que chaque fois que j'ai fait un procès, il y avait pas des reportages qui étaient plus importants que d'autres. Le reportage de guerre est pas plus important au mot. C'est autre chose. Et c'est pas pour rien d'ailleurs. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir eu le prix Albert Londres, non pas pour des reportages de guerre loin, mais pour le procès Klaus Barbie qui était à 2 heures de train. C'était à Lyon. Et donc ça, pour moi, chaque fois que je rentre dans un procès d'assises, c'est une sorte de pièce de théâtre absolument bouleversante où tout va être dit là, et il faut tout regarder. Parce que moi, ce que j'aime dans les procès d'assises, il y a ce qui se joue. Et puis aussi, il y a ce qui se joue en coulisses. Il faut regarder. Il faut regarder le public. Il faut regarder. Tout se joue partout, en fait, dans une cour d'assises. J'ai un souvenir qui était assez bouleversant pour moi. C'était les gens d'Action Directe, qui passent donc en procès. Et c'était la première fois que Ménigon, Rouillan, etc. se retrouvaient sur les bancs, alors avec les gendarmes entre eux, mais en tout cas, c'est la première fois après leur arrestation qu'ils se retrouvaient, qu'ils se voyaient.
Action d'Irest, s'il faut préciser, c'était une organisation terroriste
fin des années 70. Je pensais qu'on s'en souvenait, mais apparemment, vous avez raison. Donc, Action d'Irest, qui avait choisi la violence et la lutte armée, c'est un peu ce qu'aurait pu devenir la gauche prolétarienne si elle n'avait pas cessé la violence. Mais en tout cas, nous avons ces gens d'Action d'Irest qui sont sur les bancs comme ça. Et à un moment donné, il y a une interruption de séance. Et l'interruption de séance fait que la tension se relâche. La tension se relâche et eux restent sur leur banc. C'est-à-dire qu'ils ne sortent pas de leur box, ils restent sur le banc. Et tout d'un coup, je vois, moi, quelque chose, et je dis à mes copains journalistes qui sont là, regardez, ils m'ont dit, oui, bon, ok. Est-ce que ce que je vois à ce moment-là, qui est une chose, ils s'étreignent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vus depuis longtemps. Et tout d'un coup, les gendarmes ont l'élégance de se pousser un peu pour qu'ils puissent se prendre la main, discuter, etc. Et ces hommes et ces femmes qui ne se sont pas vus depuis toutes ces années, tout d'un coup, ont des gestes, alors qu'ils ont tué, mais ils ont des gestes de gens qui se retrouvent après un long voyage, ils savent qu'ils vont être séparés longtemps, mais en tout cas, ils se retrouvent à ce moment-là. Ça fait aussi partie du procès. C'est le seul moment de tout ce procès où il y avait de l'humanité dans ce box-là, dans le box des accusés. Faut pas rater ce moment-là. En fait, là, il faut avoir dans des procès, il faut avoir une caméra qui
à 360 degrés.
Toute la pièce. C'est-à-dire que quand un avocat plaide, il faut aussi regarder le public parce que tout compte. Et c'est ça ce qui est magnifique dans le procès. Moi, je me souviens dans le procès Barbie dont on va parler, à un moment donné, il y a eu quelque chose qui a été terrible. Il y a une dame qui parlait des tortures qu'elle avait subies et je vois dans un coin du palais de justice de Lyon, quand même. J'ai jamais vu ça, c'est la première fois de ma vie, et je pense que je le reverrai plus. D'abord, il y a un petit oiseau qui rentrait par une fenêtre et qui était comme terrorisé. Pas parce qu'il entendait, bien sûr, mais ça faisait ça. Le petit moineau qui se cache dans une moulure de colonnes corinthiennes lyonnaises dans ce palais de justice et qui tremble tout en haut, qui est terrorisé. Et je vois un gendarme qui se tourne et qui pleure. Jamais j'ai vu ça de ma vie. Si on voit pas le gendarme qui pleure, et si on voit pas l'oiseau, et c'est comme ça que j'ai commencé mon article ce jour-là, par l'oiseau terrorisé. Si on ne voit pas ça, on n'a pas compris ce que c'est qu'un procès, on n'a pas compris ce que c'est que le fait divers, et on n'a pas compris comment il faut le traiter.
Un journalisme de regard. Souvent, vous dites que vous faites un journalisme de regard. Bon, c'est aussi un journalisme d'écoute, hein.
Oui,
mais c'est les yeux et les oreilles.
C'est une critique que l'on m'a faite à un rédacteur en chef un jour, qui me dit, tu vois, il y a deux sortes de journalisme. Le journalisme du savoir, le journalisme du regard. Toi, c'est le regard. Mais ça me va très bien. C'est-à-dire que lui, c'était pas bien que disait ça. En gros, je suis pas un informé. Voilà. Et non, justement, c'est formidable. C'est-à-dire que moi, lorsque j'allais en reportage, je ne sais pas ce que je vais trouver. Il y a des gens qui allaient en reportage avec leur dossier et en gros, qui allaient en reportage pour conforter ce qu'ils pensaient avant de partir. Moi, pas du tout. Moi, le nombre de reportages que j'ai fait où j'ai été bouleversé non seulement, mais en plus que j'ai appris à penser contre ce que je croyais avant de partir. Le reportage, c'est le lieu où on découvre, c'est pas le lieu où on cherche les preuves de ce que l'on croyait, de ce que l'on pensait, de ce que l'on disait avant. Le journaliste, c'est être une enveloppe vide et se nourrir de ce qu'on voit, se nourrir de ce que l'on entend. Et après, ailleurs, celui qui veut nous expliquer ce qu'est la vie grâce aux personnes qui sont sur le terrain, c'est nous qui nourrissons l'éditorialiste, c'est nous qui nourrissons celui qui va faire l'analyste. Mais moi, ça m'intéresse pas du tout, je ne sais pas faire ça. En revanche, dire ce que je vois, dire ce que j'entends, ça oui.
Sacha Landon, quand vous allez au procès de Klaus Barbie en 1987, vous savez rien non plus ? Vous y allez vierge de tout ?
Non, ce que je sais, c'est que... Alors, je connais Klaus Barbie grâce au travail de mes prédécesseurs, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé sur sa fuite, sur son exil, sa tentative, sur ses crimes, bien sûr. Mais l'homme, je l'ai pas vu, l'homme. Moi, quand j'arrive au procès, j'ai en tête une interview de lui lorsqu'il était en Amérique latine, plutôt sûr de lui, avec un col roulé blanc, je me souviens très bien du col roulé blanc, que j'avais vu à la télévision, je pense. Et tout d'un coup, je vois entrer un petit bonhomme. Une sorte de petit vieux, une sorte... J'ai pensé à un oiseau de proie, mais tout fatigué, tout bizarre, avec un cou qui dépassait d'une chemise, d'un col de chemise trop grand pour lui, une petite cravate noire, et c'est terrifiant, c'est la banalité du mal. Quelqu'un d'insignifiant. Et moi, ce qui me touchait beaucoup, c'est que J'ai entendu dire, et tout le monde a entendu dire, ça y est, c'est lui, d'abord je le reconnais, c'est ce que disaient les gens qui l'ont véritablement connu et qui l'ont eu en face. Mais ce qui était bouleversant pour moi, c'était... J'entendais les journalistes aussi, qui l'ont écrit d'ailleurs, qu'il avait le visage, c'est lui, c'est le bourreau, son rictus, son rire étrange, ses yeux bizarres. Sincèrement, et c'est pour ça que c'est terrifiant. Vous prenez le visage de Klaus Barty à l'époque, et en dessous, vous écrivez prix Nobel de littérature, ça passe. Ce qui est terrifiant, c'est que la personne qui rentre dans le box, ben, il nous ressemble. C'est pas écrit monstre sur sa tête, alors qu'il est monstrueux, alors que c'est un assassin, c'est un crime contre l'humanité, mais la personne qui rentre, ce qui est terrifiant, c'est qu'il n'a pas la tête de ce qu'il a. Et cette banalité du mal, encore une fois, moi, c'est ce qui me touche le plus, c'est-à-dire que, ah oui, ça y est, c'est lui, son regard, son rictus, quel rictus? Quel rictus? L'homme qui vient de rentrer dans le box, en fait, c'est quoi? Ben, c'est un accusé. Et il prend la posture de l'accusé. Et il se voûte et il se tasse. Alors, oui, bien sûr, ici ou là, il y a une sorte de petit regard, une sorte de petit sourire, mais rien de plus. C'est-à-dire qu'il est beaucoup moins impressionnant qu'un tueur d'enfants ou un tueur de femmes ou dans n'importe quelle cour d'assises en France. La personne qui vient de rentrer, ben, c'est nous tous. Et ça, c'est terrifiant. Parce que tout d'un coup, on voit en face de nous quelqu'un qui nous ressemble.
D'où vos premiers mots, il entre, vieillard fantomatique, en costume noir.
En costume noir. Et il entre, d'abord il entre parce que je pouvais pas commencer mon article autrement qu'il entre. C'est important ce moment, ce silence. Le silence qui précède l'entrée d'un accusé, c'est un moment qui est insensé, c'est incroyable. C'est ça, c'est véritablement un silence de mort, c'est-à-dire que... Le moment où l'accusé rentre, c'est extrêmement théâtral. D'abord, c'est assez banal, parce que c'est un petit bonhomme à qui on enlève les menottes et qui s'assied. Mais c'est théâtral parce que, brusquement, ce nom Klaus Barty, comme d'autres noms qui ont hanté les faits divers, eh ben, il est en face de nous. C'est plus les mots des journalistes qui vont nous en parler. C'est plus ce qu'on a vu ou ce qu'on a entendu de lui à la radio, à la télé. Il entre. C'est-à-dire qu'il est en face de nous directement. Et ce moment-là est incroyable parce que, ça y est, tout d'un coup, il y a un personnage de chair qui est en face de nous, et parfois c'est même un peu décevant. C'est-à-dire, c'est ça un criminel contre l'humanité. Ben oui, c'est ça. Et c'est terrifiant de penser que c'est un homme. J'aurais tellement aimé, c'est très bête ce que je vais dire, mais c'est comme un traître. J'aurais tellement aimé que le traître soit le Iago de la fable. J'ai trahi, avec sa bosse dans le dos, je sais pas quoi. Non! C'est ça qui est monstrueux, c'est que la personne qui rentre, Klaus Barty qui rentre, et qui se dit Klaus Altman tout de suite, qui refuse même son identité, ça c'est formidable. Mais en tout cas, la personne qui rentre, mais c'est une personne âgée, c'est comme un grand-père. Et on le regarde s'asseoir, on l'épie d'abord, tout le monde épie. C'est-à-dire que tous les yeux sont sur lui, et ce qui est terrifiant dans ce procès, au début en tout cas, c'est qu'il n'a pas un regard pour nous, ça c'est normal, pour la presse, mais il n'a pas un regard pour les victimes. Aucun regard. Il y a toutes les victimes qui sont au premier rang. Il y a des femmes, il y a des hommes. On les reconnaît très bien parce qu'ils ont des badges de couleur. Il y a des cannes, il y a des déambulateurs. Il y a des petites femmes, des petits hommes qui ont été cassés par cette saloperie d'hommes. Il n'a pas un regard pour eux. Pas un regard pour eux, il a un regard et un sourire pour sa traductrice, un regard légèrement compassé pour la cour, mais pour eux, rien. Et là, on se dit, d'accord, voilà, ça, c'est Klaus Barty.
Cet homme était donc accusé de l'arrestation, de la torture, de la déportation et de la mort de 83 juifs du comité lyonnais de l'Union Générale des Israélites de France. Signant le télégramme « Travail accompli après l'arrestation des enfants d'Izieux et de leurs accompagnateurs », Klaus Barty est seul responsable du dernier train vers l'Allemagne le 11 août 1944, déportant 650 personnes vers le camp français de Struthof, puis vers Dachau, Ravensbrück et Auschwitz. Klaus Barty, enfin, responsable de la mort du résistant juif Marcel Gompel, des tortures infligées à Lise Lefebvre, à Lise Lezèvre et de la disparition de sa famille. Voilà ce que vous écrivez sur Chalandon dans Enfant de salaud, qui raconte en partie ce procès Barty.
Oui.
Mais qui raconte en partie seulement, parce que c'est un procès fleuve, c'est un procès considérable. D'ailleurs, vous l'écrivez, c'était considérable, ce procès. C'est quand même le premier procès intenté par la justice française pour crime contre l'humanité. Vous n'étiez pas le seul journaliste présent, bien sûr. 800 journalistes étaient accrédités.
Au début,
149 victimes étaient présentes, famille, amis, 39 avocats, les parties civiles, les témoins. Procès considérable et douloureux pour moi, écrivez-vous dans Enfant de salaud. Je me suis demandé si un fils de traître avait le droit de témoigner des voix les plus immenses de notre temps.
Oui, Alors à l'époque, je sais pas, je ne sais pas exactement ce que mon père a fait pendant la guerre. Ce que je sais, ce qui m'a menti toute mon enfance, il était grand résistant ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, comme c'était un affabulateur absolu, la guerre était et le lieu aussi de l'affabulation, de son affabulation maximale. Mais en tout cas, l'homme qui est là, ce jour-là, d'abord, il me demande d'assister aux audiences. Et je lui dis oui, je ne sais pas pourquoi je lui dis oui. J'aurais pu lui dire non, il ne serait pas venu. Hein. Mais je lui dis oui parce que c'était important pour moi. Et j'espère que le procès Barbie va faire en sorte qu'il va se dévoiler. Là, il y a son fils, il y a lui, il y a Barbie, il y a ce lieu, ce décorum. Et je pense que cet homme-là, mon père, soit il a été le grand résistant qu'il a prétendu, qu'il m'a dit être. Et à ce moment-là, bah, il va pleurer à l'évocation des enfants des yeux, ou je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je le regarde. C'est terrible dans ce procès-là, parce qu'en plus, il faut que j'ai des yeux dans le dos, parce que mon père est derrière moi. Il est au fond de la salle. Et donc, j'ai Barbie, je regarde Barbie, je regarde la foule, je regarde et je regarde mon père en plus. Ça, c'est un secret. C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'en parle. Mais c'est mon secret à moi, je regarde mon père pendant tout le procès. Soit, il est le collaborateur que je crois qu'il fut, et d'ailleurs, ça s'est avéré ensuite. Et si c'est ça, il va peut-être profiter de ce procès pour me dire la vérité. Moi, je compte que deux vérités éclatent. D'abord, ce qu'a fait Klaus Barbie et qu'il soit condamné et jugé. En revanche, je juge pas mon père. Mais j'espère que ce lieu du jugement de Klaus Barbie va faire que soit c'était un petit collabo, et ben que c'est le moment, papa, vas-y, tu peux me dire maintenant. Parce que nous sommes grands, ça y est, je ne crois plus ce que tu dis, je ne crois plus ce que tu as fait. Je suis ton fils, je suis adulte. Maintenant, c'est le moment où tu peux me parler, où tu peux me dire les choses. Et ça n'a pas été le cas. Donc je suis reparti de ce procès, simplement avec le crime contre l'humanité de Barbie, ce qui est déjà énorme. Mais mon père est reparti dans son silence, dans ses mensonges, et il n'a pas mis à profit cette épreuve du procès Klaus Barbie pour me dire la vérité. Donc il y avait deux choses, en fait.
Et il y a ces deux choses dans Enfant de salaud, oui. Puisqu'il y a le récit parallèle, donc,
absolument.
De la vérité sur votre père que vous avez découverte bien plus tard.
Il était mort, et c'est dommage, mais
vous l'avez découvert en 2020.
Voilà, mais dans Enfant de salaud, et c'est la partie romanesque de ce roman-là, j'imagine avoir découvert ça au moment où le procès Barbie s'ouvre. Et c'est la différence entre la vérité, c'est-à-dire qu'en 2020, quand je sais tout, il est mort. Mais là, dans le enfant de salaud, je fais exactement comme si, à l'ouverture du procès Barbie, j'avais son dossier, et je vais pouvoir le confronter, je vais pouvoir l'affronter, je vais pouvoir lui dire, papa, je sais, ce qui n'a pas eu lieu. C'est un peu comme sur mon livre sur l'Irlande, je suis allé voir le traître après sa mort grâce au roman, et là, j'ai pu dire à mon père, pendant de son vivant, grâce au roman, choses qui n'ont pas existé, mais choses qui m'ont permis d'être un peu en paix avec moi-même.
Vous avez assisté au procès Barbie, et on va continuer d'en parler, mais vous avez aussi assisté au procès Touvier, suite Bousquet.
Alors, Touvier, suite Papon. Oui. Alors, j'ai assisté au procès Touvier. Papon, c'est Pascal Nivelle, mais procès Touvier et l'assassin de Bousquet aussi. Christian Didier. Et d'ailleurs, c'est un procès qui me reste vraiment sur le cœur parce que cet homme était manifestement, il était malade. Il avait écrit un livre qui s'appelait La balade d'Early Bird, livre qu'il n'a pas pu publier jamais nulle part, sauf pour lui, tout seul dans son coin. Et pour que ce livre soit publié, il a tout fait. La justice française se serait honorée de dire que cet homme-là, peut-être qu'il méritait une peine, bien sûr, parce qu'il avait tué Bousquet, donc ce qui était extrêmement important. Mais en tout cas, qu'il n'était pas forcément accessible à une sanction pénale. C'est-à-dire que quand le président lui dit à ce petit bonhomme qui venait des Vosges, « Pourquoi êtes-vous passé à l'acte ? Pourquoi avez-vous tué cet homme ?» Il dit, parce que j'étais dans la rue, j'ai vu une grande publicité, c'était écrit « Just do it », je me suis dit, c'est un signe du ciel. Quand on dit ça, il y a interruption de séance, on s'arrête et on demande au psychiatre de réviser le jugement quand même. « Just do it », j'y vais, je le tue, c'est pas possible. Et ben, il a été accessible à une sanction pénale et donc ça m'a chagriné qu'on l'enferme comme ça, alors que je pense qu'il était, lui, pour le coup, aurait pu bénéficier de soins, mais c'est pas grave.
Dans la préface d'un livre qui est le jugement complet des crimes contre l'humanité commis en France pendant l'occupation, à travers quatre procès principaux, donc Barbie, Touvier, Bousquet, Papon, un livre intitulé « Crimes contre l'humanité » que vous avez dirigé et écrit avec Pascal Nivelle, et paru chez Plon en 1998, Robert Badinter écrit dans cette préface que vous êtes à la fois des chroniqueurs émouvants de ces audiences, mais ce qui est le plus important encore, les mémorialistes attentifs de la justice.
Oui,
Vous viviez comme ça ?
Alors, je ne sais pas si je vis comme ça, en tout cas, sauf que c'est un hommage et un honneur considérable que nous fait Robert Badinter. Mais ce que je sais, c'est que lorsqu'on est dans un procès, comme Touvier, comme le procès Barbie, il ne faut pas jouer. C'est exactement comme lorsqu'on rentre à Sabra et Shatila. Il ne faut pas jouer avec les mots, il ne faut pas jouer avec les émotions. Alors, on peut jouer avec les émotions parce que je suis ému, mais tout ce qui est dit doit être rapporté fidèlement. Moi, je me sens scribe. Je suis obligé, oui, peut-être pour dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, si quelqu'un lit ce livre-là, ou si quelqu'un lit d'ailleurs...
Enfant de salaud.
Enfant de salaud, où je rapporte par le menu des séances entières, je veux que tout soit absolument exact. C'est-à-dire que il faut pas se tromper. Je veux que quand Klaus Barbie parle, je veux qu'on l'entende. Je veux que... Donc oui, nous sommes pas auxiliaires de justice, bien sûr que non, mais nous sommes auxiliaires de mémoire. Mais ce qui est important, je trouve, hein, c'est que j'ai trop entendu, c'est un procès pour l'histoire. Non, c'est un procès pour la justice. C'est un procès. C'était pas le procès du nazisme, c'était le procès d'un homme. Et ça, il y a eu, je trouve que très très vite, il y a eu des sortes de débordements sur le devoir de mémoire. Non, c'est le devoir de justice. C'est-à-dire, c'est la différence entre la dictature et nous. D'abord, Barbie a le droit d'être jugé, Barbie a le droit à un avocat, mais c'est lui qu'on juge. On juge pas un système. Et ça, c'est extrêmement important. Pendant tout ce procès, on nous rappelait, le procureur Truche, immense procureur, rappelait que c'est un homme que l'on juge, c'est pas le nazisme, c'est ce monsieur qui est là, qui se prétend Klaus Altmann, s'appelle Klaus Barbie, c'est lui qu'on juge pour ce qu'il a fait. Et nous, quand on fait ça, quand on prend chaque mot est sacré, en fait. Quand Klaus Barbie dit « je m'appelle Klaus Altmann », ce mot-là est sacré. Et quand j'écris ce mot-là, je veux que ce mot-là soit lu dans 10 ans, dans 20 ans, je sais pas par qui. Mais en tout cas, si des chercheurs se penchent sur ce livre-là, par exemple, ils trouveront absolument la vérité. On n'a pas le droit de jouer avec les faits, on n'a pas le droit de jouer avec ce qui est sacré, c'est-à-dire l'œuvre de justice lorsqu'elle a lieu. Et c'est vrai que nous sommes, à ce moment-là, des historiens du temps présent, je trouve.
Et vous, quand vous écrivez ensuite, dans un roman, Enfant de salaud, les témoignages de Léa Katz, de Michel Goldberg, de Fortuné et Chouraki, de Lise Lezèvre, quand vous rapportez la plaidoirie de Serge Klarsfeld, transformée en énumération des 44 enfants juifs d'Izieux, le réquisitoire de l'avocat général Pierre Truche, avec son « Je vous demande de dire qu'Avie Barbie soit reclus », la plaidoirie de Jacques Vergès, qui était l'avocat de Klaus Barbie, qui a duré 6 heures.
Oui.
Quand vous écrivez tout ça dans un roman,
oui.
Enfant de salaud, vous faites un devoir de mémoire ?
Oui, je pense. Je le remets dans le contexte, en fait. C'est-à-dire que moi, ce qui était important dans ce livre-là, c'est pas un livre sur Klaus Barbie, c'est pas un livre sur ce procès. C'est un livre sur mon père, sur un homme. Mais il se trouve que cet homme-là, à un moment donné, avait porté l'uniforme allemand. Et cet homme-là, enfin, c'est terrifiant de penser qu'à Lyon, en 87, dans cette cour d'assises, il y avait un chef nazi puis un petit soldat allemand. En fait, mon père, un petit traître. Et c'est terrifiant de penser que sous ce même toit, il y avait le chef, il y avait le simple soldat. C'est-à-dire que c'est pas un devoir de mémoire dans ce livre-là. C'est juste que si j'ai l'orgueil, si je prends le risque de parler du procès Barbie dans ce roman-là, il faut que tout soit absolument exact. J'ai pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que j'ai repris les phrases dans ce livre-là, dans un roman. J'ai repris les phrases exactes telles qu'elles avaient été prononcées, telles qu'elles avaient été dites. Et donc, il a fallu que je regarde les minutes du procès. Il a fallu que tout soit restitué absolument exactement.
À partir de vos notes aussi?
À partir de mes notes, mais à partir de ce que j'avais écrit à l'époque, des articles. C'est-à-dire que si un romancier écrit quelque chose sur Klaus Barbie et prend le risque de raconter ce procès dans un roman, il faut que tout soit absolument exact. C'est un devoir. Là, c'est même pas un devoir de mémoire. C'est un devoir historique et c'est un devoir de justice. C'est-à-dire que je peux pas jouer avec ça. Je peux pas jouer avec ce procès. Quand Fortuné Benguigui parle, je suis obligé de restituer absolument la tonalité de sa voix et de ses mots et de sa souffrance et de ses pleurs. Tout ça doit être absolument exact. Autrement, il ne faut pas que je travaille de ce côté-là. Il ne faut pas que je parle du procès Barbie si je ne suis pas capable de rendre grâce, hommage, honneur à ceux qui en parlaient.
Serge Chaland, donc qu'est-ce qui... J'ai cité quelques moments forts hein, de ce procès et qu'on peut effectivement lire sous votre plume, à la fois dans... Ce livre collectif Crime contre l'humanité, et puis dans Enfants de salauds, pour vous, au fond, qu'est-ce qui reste de ce procès ?
Alors, d'abord, je pense qu'il y a deux choses qui restent pour moi. Il y a les enfants d'Izieux, d'abord, et avant tout. C'est-à-dire qu'on dit les 44 enfants d'Izieux, mais leurs noms ont été prononcés. Chacun. Leurs noms et puis les lettres qu'ils ont pu écrire, les petites cartes postales ou les lettres qu'ils ont écrites à leurs parents, avant de mourir, avant d'être déportés. « Chère maman, j'essaie de bien travailler dans la petite école, de la maison d'Izieux, j'espère que tu seras fière de moi un jour. » Ces lettres-là, je crois que c'est l'un des plus beaux témoignages. Enfin, c'est pas une plaidoirie, c'est un kaddish, en fait. C'est une prière pour les morts qui a été dite par Maître Klarsfeld ce jour-là. Je pense même que cette plaidoirie aurait suffi. D'autres l'ont écrasé après, d'autres... Des résistants qui venaient en disant « J'ai l'honneur et l'avantage de plaider devant vous » avec une sorte d'articulation de sous-préfet Auchan qui a abîmé ce procès. Mais ce moment des enfants d'Izieux, en fait, Maître Klarsfeld les a fait entrer. Il y a 44 gamins qui sont entrés dans la salle d'audience. Et ça a été le moment, ils sont entrés, quoi. Je les ai vus, on les a tous vus. Ils sont entrés avec leur nom, avec leur prénom, avec leur âge, avec leur rire, avec leur peur, avec leur cri. Ils sont entrés dans la salle d'audience ce jour-là. Et ça, pour moi, c'est bouleversant. Et la deuxième chose que je retiendrai, c'est quand Klaus Barbie a demandé à quitter et qu'il est parti. Heureusement qu'il est parti. Heureusement qu'il est parti, parce que tout le temps où il était là, les gens n'avaient Dieu que pour lui. Et je pense que s'il était resté tout le temps du procès, rien n'aurait pu être dit. C'est-à-dire que il fallait son absence pour que les choses soient dites. Autrement, ça aurait été une litanie de pleurs, de « je le reconnais, oui, c'est lui, quelle horreur », de gens qui seraient tombés, qui se seraient sentis mal, qui seraient effondrés, qui seraient... Là, il n'était plus là. Donc, il y avait une chaise vide qui a permis à tout le monde de dire ce qu'ils avaient dit à personne, souvent. C'est-à-dire, voilà ce que j'ai vécu. Parler de la torture face à Klaus Barbie, c'est impossible. Parler de la torture qu'on a subie face à une chaise vide, c'est possible. Donc ce qui m'a bouleversé, vraiment, ce qui m'a énervé surtout, c'est quand les journalistes, j'ai entendu les journalistes me dire, quand il est parti, ce procès n'a plus aucun intérêt. Au contraire, le procès commençait véritablement en son absence, grâce à son absence, grâce au fait qu'il n'était plus là, les gens ont pu pleurer, ont pu raconter, ont pu dire. Sa présence aurait pas gâché les débats, mais n'importe comment, il n'avouait pas. Il disait qu'il s'appelait Klaus Altmann. Il n'avait aucun, qu'il s'en aille. Et maintenant, on va vous écouter. Mesdames, messieurs, les déportés. Mesdames, messieurs, les torturés. C'est vous qui comptez, c'est pas lui.
Et je rappelle que Klaus Barbie a été condamné à la perpétuité et qu'il est mort en prison.
Il est mort en prison.
En 1991. Mmh. Merci, Serge Chalandon. On se retrouve demain pour le dernier épisode, l'épisode 5. Nous parlerons du roman vrai. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Christophe Papon, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet, disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.